Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 11 août 2014. Bienvenue à ce premier grand dialogue de la semaine. Femmes et gouvernance, c'est le thème du jour. En partenariat avec la Fondation Ford, nous évoquerons trois sous-thèmes dans ce débat. La représentativité des femmes au sein des instances de décision au Mali, les contraintes sociales auxquelles les femmes font face, le bilan de la promotion féminine dans le pays. Nos invités, Madame Dambélé Oulématou Sow de la Fédération des collectifs d'organisations féminines du Mali. Nous aurons également Youma Tamboura du parti Force Alternative pour le renouveau, Far Ankawili et Rabiatou Maïga de la société civile. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoum Diré est à la technique. Studio Tamani. Mesdames, voici quelques propos d'un homme, Mangoné Nyang, directeur du Centre d'études linguistiques et historiques de la tradition orale de l'Union africaine sur la place de la femme en Afrique. Je cite, « Il y a plusieurs siècles, des hommes et des femmes épuisés par les conflits et la discorde se sont réunis pour réfléchir sur de nouveaux modes de négociation et d'entente. C'était exactement en 1236 à Kangaba, actuel Mali. Leur concertation a permis d'élaborer l'un des premiers textes connus sur l'organisation de la cité dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, la charte de Kourou-Kanfouga. Ce document monumental invalide l'idée souvent développée que l'histoire est porteuse de faux espoir, que l'unanimisme y était la seule règle, que les rapports hommes-femmes y fonctionnaient sur le mode de l'exclusion et de la domination. Bref, il n'y a rien à attendre d'elle en matière de négociation sociale. Il suffit de revisiter l'histoire africaine pour trouver des enseignements positifs qui informent sur l'évolution normale et négociée des sociétés humaines. Il suffit de faire le procès de ruptures décisives pour voir les causes de la déraison sociale et l'écart entre l'homme et la femme. Les choses ont-elles évolué depuis, Madame Dambélé Oulématou?
Oui, je vous écoute.
Est-ce que vous m'avez
Alors,
entendu?
Je vous écoute, M. Touré. Oui, j'ai bien compris.
D'accord. Alors, une réaction par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce que les choses ont évolué depuis?
Bon, les choses n'ont pas très évolué quand même, hein, parce que si je fais référence, par exemple, à au rôle socio-économique de la femme qui est de premier plan, n'est-ce pas, dans notre société, parce que nous ne représentons plus de la moitié de la population, plus de 50% d'après les derniers recensements. Nous contribuons à 80% à la production alimentaire. Nous sommes à 70% dans l'artisanat. Et pour le commerce, nous sommes très représentés dans le secteur informel, parce que nous sommes à 58%, n'est-ce pas, dans le commerce. Et tout ce que nous gagnons, n'est-ce pas, va d'abord à notre niveau familial. Je voudrais quand même vous dire, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, les femmes sont très en dessous, vraiment, par rapport aux postes de responsabilité qu'elles peuvent jouer. Par exemple, si mon mémoire est bonne, et la Troisième République, par exemple, en 92, les femmes étaient 3 sur 80 députés à l'Assemblée nationale. Et en 97, elles étaient 18 sur 147 députés. Donc, il y a 3 présidentes de partis politiques. Et également, en 2007 quand même, il y avait 15 femmes, ça c'était les dernières élections. 15 femmes sur 147 et c'était 10,2%, n'est-ce pas, de représentation. Il y a également des femmes maires et également, on a quand même les données de 2009 qui stipulent qu'on n'a qu'une femme maire sur 703 maires, soit, disons, ça fait 1% de maires. Soit 8 femmes sur 703 communes. Et en termes de conseil municipal, nous sommes à 66%, d'où 900, on doit avoir à peu près 927 femmes sur 10 774 conseils municipaux. Donc également, dans le domaine nominatif également, nous sommes également vraiment très défavorisés. Donc également par rapport au contexte électoral, vous n'êtes pas sans savoir que la forte mobilisation des femmes qui a caractérisé quand même le scrutin, le dernier scrutin, n'est-ce pas, du Mali, nous avons beaucoup pesé, n'est-ce pas, dans la balance. Et le gouvernement, quand même, actuel du Mali, vous savez qu'il y a seulement 400 ministres sur 31. Donc, c'est un peu pour vous dire, je peux parler des autres postes nominatifs, comme par exemple le conseil, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, le Conseil économique, social et culturel, et au niveau des ambassadeurs, au niveau des secrétaires généraux, au niveau du médiateur de la République, au niveau vraiment des directeurs des services centraux, et bien des choses. Donc, nous avons beaucoup pesé, n'est-ce pas, à la présidentielle de 2013, avec un taux de participation de 58%. Cependant, lorsqu'il s'agit vraiment de notre participation par rapport à notre représentation dans l'esprit des décisions, les pommes sont très, très nombreuses.
Alors, nous allons voir les causes. Nous allons voir les causes de cette faible représentativité au sein des instances de décision dans la deuxième partie. Mais juste avant, je voudrais juste signaler que nous avons dans ce studio deux jeunes dames. Vous ne les voyez peut-être pas, mais des jeunes dames d'une autre génération. Nous allons leur demander à chacune d'entre elles ce qu'elles font respectivement dans leur domaine de prédilection. Vous restez avec nous, Madame Dambélé.
Ok.
Alors, Youma Tamboura, vous êtes du parti Force Alternative pour le Renouveau, Phare en Kaouli. Qu'est-ce que vous faites au sein de ce parti?
Bonjour d'abord. Je m'appelle Youma Tamboura. Je suis secrétaire à la communication du parti Phare en Kaouli dans le bureau communal. Et je suis la permanente du siège. Je suis aussi présidente d'un nouveau réseau qu'on a créé, le réseau des jeunes femmes leaders et des organisations des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile. Je suis présidente à la commission formation. Bon, dans mon parti, on va dire, je suis la plus jeune parce que je n'ai pas encore 22 ans et je compte vraiment beaucoup m'impliquer dans toutes les choses qui se passent un peu dedans.
Alors, ce que vous faites, comment est-ce que cela est apprécié et vu par les hommes qui vous entourent dans ce parti?
Ça dépend. Il y en a qui disent que je suis effrontée. Il y en a qui disent que je m'implique dans certaines choses qui me dépassent. Et moi, je pense vraiment que ce n'est pas l'âge qui compte, au fait. Ce sont les idées, ce sont les convictions. Et voilà, et le reste, ça vient plus tard. C'est vrai, nous sommes jeunes, nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience. Mais vraiment, on aimerait que ces hommes-là soient à côté de nous pour qu'on soit une meilleure génération que celle-ci.
Alors, au sein de ce parti Phare en Kaouli, quelle est la place des femmes? Il y a combien de femmes, par exemple, dans le bureau communal dans lequel vous êtes?
Je vais dire, il y a à peu près, je ne connais pas l'estimation, dans le bureau communal. On va dire nous sommes à peu près 6 femmes dans le bureau communal dans le bureau de la commune 4.
Sur combien de membres?
Sur 39 membres. Voilà. Mais je ne pense pas que le parti Phare marginalise autant que ça les femmes.
Alors qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas assez nombreuses dans ce parti?
Je ne sais pas.
Mais
vous
au
savez,
sein du bureau, plutôt.
Au sein du bureau. Vous savez, nous voulons être des femmes leaders. Nous voulons, d'accord, mais comment être une femme leader si on ne veut pas prendre le pouvoir? C'est compliqué.
Donc vous pensez qu'il y a de la timidité?
Il y a beaucoup de timidité. Il y a beaucoup, beaucoup de timidité. Elles se disent qu'elles n'ont pas les compétences requises. Elles se disent qu'elles ne seront pas à la hauteur. Or que moi, je pense que ce n'est pas une question d'être à la hauteur ou pas. On peut apprendre petit à petit. Voilà, moi, je pense qu'on devrait vraiment plus avoir envie de prendre le pouvoir au lieu de dire nous sommes marginalisés par les hommes, nous sommes marginalisés par les hommes. Si nous-mêmes, on ne vient pas pour prendre le pouvoir, comment est-ce qu'ils peuvent nous la donner?
Nous avons également avec nous une autre jeune dame, Rabiatou Maïga. Vous êtes de la société civile. Dites-nous dans quelle association est-ce que vous militez?
Bonsoir à tous. Je suis Rabiatou Amadou Maïga. Je suis membre de l'association Démocratie One One. Je l'ai adhéré il y a pas, ça vaut même pas 6 mois.
Alors cette association, qu'est-ce qu'elle fait?
L'association, son but, c'est d'informer les gens, d'aller voter, surtout les femmes, de donner le courage aux femmes d'aller voter, parce que les femmes doivent être à la prise de décision comme les hommes. Donc la représentativité des femmes aussi aux partis politiques et aux élections aussi.
Alors, dans cette association, y a-t-il des hommes?
Si, si, il y a des hommes. Et j'avoue que les hommes sont nombreux que les femmes.
Vous êtes combien de femmes?
Bon, on a une présidente d'honneur, donc Kumbaba. Moi, plus trois femmes. Donc, le reste,
ce sont des hommes.
Il faut l'avouer.
En tout, cinq femmes pour combien d'hommes?
On peut dire pour 10 hommes, comme ça.
Alors, est-ce que ce...
Dans le bureau, quand même, dans le bureau.
Est-ce que ce statut vous convient ou bien vous voudriez changer cette...
Non, ça ne me convient pas, franchement, parce qu'il faut dire qu'on veut plus de femmes. Ou bien peut-être qu'il y ait une, l'équité de genre aussi, ce serait mieux. Peut-être 5 femmes par ici, 10 femmes, 5 hommes par là, ce serait mieux. Mais on voit que les hommes sont nombreux par rapport aux femmes. Donc déjà, les femmes sont minimisées. Elles se disent qu'elles n'ont pas droit au poste, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'elles ont peur d'avoir une responsabilité, de ne pas bien gérer, alors que ce n'est pas ça. Il faut avoir une confiance en soi-même d'abord, avant toute chose.
Alors, Madame Dambélé Oulema Tousso de la Fédération nationale des collectifs d'organisation féminine du Mali, la moyenne d'âge dans ce studio, je parle là des jeunes dames qui sont avec moi, est aux alentours de 22 ans. Vous, pour qui vous connaissez, ces dames-là représentent vos filles. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en termes de motivation face aux brimades qu'elles suivent avec les hommes? Qu'elles subissent avec les hommes.
Moi, merci beaucoup. Moi, je ne peux que les encourager. Que les encourager de persévérer. Parce que ce n'est pas facile. Nous sommes vraiment dans une société une société vraiment qui est dominée par les hommes. Donc, je pense que c'est avec l'éducation que les choses, à mon avis, l'éducation, les choses vont se corriger petit à petit. Parce qu'on aurait tout fait, n'est-ce pas, nous, en tout cas, notre génération craint de heurter. On ne veut pas heurter. Mais quand, de plus en plus, avec la mondialisation, la globalisation, il y a d'autres phénomènes qui sont en train vraiment de naître. Ces phénomènes sont, par exemple, le fait que les filles n'arrivent pas vraiment à se marier à l'âge requis. Il y a cet état de fait. Mais elles ont de gros diplômes. Si tu as de gros diplômes, tu travailles dans une structure, tu es obligé, n'est-ce pas, de te battre pour occuper une responsabilité, étant entendu que il n'y a aucun homme, n'est-ce pas, qui subvient à tes besoins et tes parents t'ont mis au monde vraiment pour que tu les aides quand ils vont commencer à gagner. Je pense que c'est juste la persévérance. Elles n'ont qu'à se former, n'est-ce pas, auprès vraiment des femmes et vraiment des gens, des hommes genre sensibles. Parce que les contraintes sont exponentielles. Nous avons assez de contraintes, peut-être qu'on va aborder cela. Mais je pense que vraiment, moi, je les félicite, je les encourage. Et vraiment, je suis à leur entière disposition pour les faire comprendre et apprendre ce que moi j'ai appris. Parce que nous, personne ne nous a appris à faire ça. C'est sur le temps vraiment qu'on s'est formé. Donc, on a commencé à être réellement des leaders libérés. Quand vraiment, on a appris, on a compris beaucoup de choses. On a composé, n'est-ce pas, avec beaucoup de gens. On a travaillé dans beaucoup de domaines. C'est ce qui a fait que vraiment, aujourd'hui, on a pris les textes de l'indépendance dans nos jours. On a vu que vraiment, les femmes sont levées et je ne me gênerai pas quand même de dire que c'est une injustice que les hommes doivent corriger à tous les niveaux. Parce que ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, ce n'est pas seulement au niveau de l'Assemblée nationale.
Vous pensez que c'est même dans le cercle familial?
Même dans le cercle familial, les hommes n'arrivent pas à internaliser le fait que, en termes vraiment de droits, l'homme et la femme, on a tous accès. En termes vraiment d'éducation, moi, je n'ai eu que des filles. Moi, je souhaite que mes filles étudient au même titre que les garçons. Donc, en fait, je pense qu'il faut voir un peu la situation en face et savoir que nous sommes d'un pays pauvre vraiment qui a trop souffert, n'est-ce pas, ces derniers temps. Et il faut accepter, amener vraiment d'autres couches, n'est-ce pas, dans la gestion, n'est-ce pas, des affaires de la cité, pour que vraiment on puisse ensemble relever notre pays.
Notamment les femmes. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant la deuxième partie de ce débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Damana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Damana, 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Isaber de Niafunké, 96.3 MHz. Merci d'être fidèle à cette émission. Vous pouvez également nous rendre visite sur notre site web www.studiotamani.org pour éventuellement suivre cette émission ou les autres archivées pour vous. Nous sommes à la deuxième partie du Grand Dialogue qui parle aujourd'hui des contraintes sociales auxquelles les femmes font face dans les instances de décision. Nos invités, Madame Dambélé Oulema Toussou de la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali, qui intervient par téléphone. Nous avons également deux jeunes dames, Yuma Tamboura du parti des Forces Alternatives pour le Renouveau, Far Ankawili et Rabiatou Maïga de la société civile de l'association One by One.
Démocratie One One.
Alors, le nom est à retenir. La deuxième partie donc de ce débat, les contraintes sociales des femmes. Les barrières sociales sont-elles les seules raisons de la marginalisation des femmes au Mali? Yuma Tamboura, du Parti Phare.
Moi, je dirais d'abord, on va commencer depuis le commencement. Il est écrit que la femme doit obéissance à l'homme.
Écrit où?
Il est écrit dans la loi. Dans la loi, il est écrit que la femme doit obéissance à l'homme. Et vu que la femme doit obéissance à l'homme et que quand, on va dire quand tu es mariée et que tu vas dire à ton homme, bon, je vais me présenter en tant que ça et ça, il va se dire, bon, cette femme-là, elle va avoir beaucoup plus de grade que moi. Et donc, elle va essayer de moi me gérer. Ici, on ne comprend pas ça. On se dit tout le temps que la femme est au-dessous. C'est comme si nous étions des sous-humaines, au fait. Voilà, donc...
Alors, votre position dans le parti, votre positionnement dans le parti et vos idéaux font que des fois vos relations se compliquent?
Oui, comme je vous l'ai dit.
Vos relations affectives.
Oui, comme je vous l'ai dit. Non, pas mes relations affectives. Je préfère ne pas parler.
Alors, qu'est-ce que cela a comme impact sur votre vie?
Pour le moment, comme je n'ai aucun engagement, je vis très bien ma vie. Voilà. Mais moi, je me dis que le jour où je vais me marier, est-ce que mon mari sera d'accord avec les idées que j'ai? Est-ce qu'il ne va pas penser que je suis en train de prendre la grosse tête? Ou bien est-ce qu'il ne va pas penser que cette fille, elle est un peu folle? Et que j'ai été trop, comme on dit, assimilée? Ils vont se dire ça. Parce que là, même maintenant, les gens le disent. Les gens pensent que nous ne sommes pas... Moi, en tout cas, ils se disent, tu es un tout petit peu trop jeune pour faire de la politique. Pourquoi est-ce que tu fais de la politique? Ce sont des trucs de mensonges. Ils vont te... Comme je l'ai dit au début, moi, j'ai des convictions. Et je ne suis pas pareil avec les gens qui s'asseyent, qui se disent « Donne-moi 500 francs, je vais voter pour toi. Donne-moi 1000 francs, je vais voter pour toi. » Moi, je me dis que quand tu prends l'argent de quelqu'un pour voter pour la personne et qu'ensuite la personne vient au pouvoir, tu ne peux rien lui réclamer parce qu'il a déjà acheté ton vote. Et moi, j'aimerais vraiment changer les idées des jeunes par rapport à ça. Et je pense que c'est un peu pour ça que je me suis... intégrée dans la politique. Et quant à mon positionnement, comme je l'ai dit, je suis secrétaire à la communication d'un bureau communal. Et pour le moment, je dis bien pour le moment parce que je compte bien aller au bureau national. Voilà, pour le moment, je suis satisfaite de ma position. Mais Inch'Allah, peut-être qu'en 2015, je me présenterai peut-être comme... Comme mère.
On sera là pour vous inviter à venir en débattre. Alors, nous avons également Rabiatou Maïga de la société civile. Rabiatou, vous êtes au sein d'une association.
Oui.
Donc, madame, vous restez toujours avec nous, hein, Oulematou.
Oui, je suis avec vous.
Voilà. Alors, Yuma, Rabiatou Maïga, vous êtes de la société civile.
Oui.
Quelles sont les barrières qui ont des impacts, qui vous posent des problèmes, les barrières sociales qui vous posent des problèmes pour militer convenablement dans cette association?
Waouh! Je dirais qu'il y a beaucoup de barrières parce que déjà on est avec des hommes qui se croient supérieurs aux femmes, donc il y a beaucoup de barrières. Ils se disent aussi que c'est eux qui ont la prise de parole d'abord avant nous les femmes. Donc des fois moi je n'accepte pas ça dans la situation. On me dit même celle-là, mais celle-là elle est gonflée. Elle prend la parole sans nous demander même notre avis. Des fois il m'arrive même de me disputer avec des hommes. Et surtout dans la société aussi, dehors, les gens me disent aussi, mais celle-là, là, elle parle tout le temps, elle sort elle, du lundi au dimanche, elle est dehors. Des fois, elle ne vient qu'à 22h à la maison. Il faut dire que j'avoue que c'est des problèmes, même si, surtout quand on est dans une famille polygamie et qu'on a une maman qui est ménagère, c'est un peu difficile à comprendre aussi. Elle se dit, ma fille, elle sort du matin jusqu'au soir. Des fois, elle vient à 22h. Mais qu'est-ce qu'elle fait dehors? Elle entend des trucs sur sa fille. Donc, elle des fois, elle réagit, mais je la dis non. C'est parce que je suis dans des réunions, je fais partie des associations, donc il faudrait que je dure des fois dehors. Des fois, c'est le problème aussi qu'on rencontre. Il faut dire aussi que les hommes aussi, ils minimisent trop les femmes et que les femmes aient confiance en eux-mêmes.
Alors, Madame Dambélé Oulema Tousso de la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali, j'imagine que vos filles-là n'ont pas ce problème avec une mère comme vous, mais comment, de quel œil est-ce que vous voyez ces barrières auxquelles ces jeunes filles font face?
Bon, en fait, moi je pense que les barrières-là, c'est socioculturel, hein. Elles ont eu déjà à le dire. La femme déjà a un faible statut dans notre société. La femme, elle est confinée à un rôle quasi social. Et la population même en tant que telle a une mauvaise perception. Et sur la femme et le pouvoir. Parce qu'on pense que c'est les hommes qui doivent diriger. Donc il faut quand même, elles n'ont qu'à s'attendre à cela, qu'on soit toujours là à les bousculer. Mais on dit que Allah bébé me rebelle demain, quoi. C'est-à-dire que si le Dieu aussi voit dans quelle souffrance, n'est-ce pas, les femmes, elles sont. Mais les femmes ne peuvent pas rester comme ça. Et le pays même a tant besoin vraiment des efforts de tous les acteurs du développement. C'est pourquoi les femmes doivent continuer à se battre et les enfants là, nos enfants là, doivent s'informer, se former davantage. Même si elle a une licence ou une maîtrise là, elle doit se battre jusqu'à aller jusqu'au doctorat d'emblée. Aujourd'hui, nous, après, n'est-ce pas, la maîtrise, nous avons fait des masters. Mais il faut que nos enfants aillent au-delà de ça. Même aujourd'hui, moi, je suis en train de préparer, n'est-ce pas, une thèse sur la décentralisation. Je pense que nous avons besoin de nous cultiver. Nous avons besoin de comprendre les politiques et les stratégies de notre pays. Nous avons besoin de travailler sur les questions de genre pour voir dans quelle mesure on peut rendre, n'est-ce pas, les documents genre sensible.
Alors, Madame Dambélé,
n'est-ce pas, les différents documents. Ce que je peux vous dire, après le socioculturel, c'est que les femmes ont un problème d'éducation aussi. Donc, c'est pour ça que je leur ai demandé vraiment de travailler.
Alors, madame...
Donc, pour cela, il y a l'analphabétisme.
Voilà. C'est là où je voulais en venir, justement. Allez-y.
Il y a l'analphabétisme, il y a l'insuffisance des capacités, n'est-ce pas, des femmes. Il y a la méconnaissance des politiques et des stratégies, je le disais tantôt. Il y a la mauvaise même perception du leadership féminin. Les gens ne comprennent pas. Nous-mêmes, en tant que femmes, on ne comprend pas le leadership féminin. Ceux qui nous voient, n'est-ce pas, en train de nous battre sur le terrain, pensent que vraiment, nous sommes en train de gesticuler pour rien. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut une volonté politique affichée. Mais peut-être on va arriver dans les solutions pour voir. Il y a également un aspect financier. Vous n'êtes pas sans savoir que la pauvreté se féminise. Et les femmes ont un faible pouvoir économique. Ça, c'est là, est connu de tout le monde. Nous sommes les pauvres des pauvres.
Alors,
nous avons une contrainte politique.
Nous allons en débattre dans la troisième partie. Mais je voudrais juste que vous reveniez sur cette partie de l'éducation. Nous avons reçu la semaine dernière les deux grands partis, à savoir le RPM et l'URD. Tous se conviennent aujourd'hui sur un fait, c'est que l'éducation au niveau de la base, si je veux dire, dans le monde rural, laisse à désirer. Aujourd'hui, vous parlez de progrès dans le domaine de l'éducation, celles qui ont une licence, vous souhaitez qu'elles aient aujourd'hui un master jusqu'au doctorat. Alors que les femmes les plus nombreuses sont dans les localités rurales. Aujourd'hui, quels sont les efforts consentis dans ce domaine?
Les efforts consentis dans ce domaine, j'avoue quand même, sans vous mentir, hein, que les efforts pour nous, c'est minime. C'est minime pour la simple raison que l'analphabétisme est vraiment à atteindre les femmes au niveau au rural. C'est pourquoi nous sommes en train de courir depuis pendant le programme vigoureux d'alphabétisation du président déchu. Nous, on a couru au ministère de l'éducation pour avoir au moins deux centres, n'est-ce pas, d'alphabétisation qui sera, n'est-ce pas, sous notre coupe où vraiment on va encadrer, n'est-ce pas, les femmes, un centre ici, peut-être un centre, n'est-ce pas, dans les régions. Au moins, les femmes de cette région et ces périphériques-là vont pouvoir être alphabétisés. Nous aussi, on va apporter nos données au niveau du ministère de l'Éducation. Parce que moi, je leur ai dit, je ne peux pas aller, n'est-ce pas, dans un niveau rural pour voir une femme, n'est-ce pas, qui arrive à faire, à prendre le rapport en Bamananga. Et ça, c'est décevant. Et ça, c'est décevant. Je n'ai pas pu vraiment comprendre cela. C'est pourquoi je suis en train de tout faire pour que vraiment je puisse trouver vraiment un créneau où je peux maîtriser un peu l'alphabétisation des femmes. Maintenant, quand on va pouvoir réussir, ça va faire école. Ça va faire école. Donc, peut-être le ministère peut voir à quelle organisation aussi donner, n'est-ce pas, des centres pour que nous-mêmes, on arrive vraiment à gérer cela. Maintenant, pour c'est cela, quoi. Et maintenant, dans le même centre, il y avait également en son temps des centres d'initiation au métier. Avec l'emploi, moi, je ne sais plus comment ces centres-là, n'est-ce pas, se portent. En fait, tout le monde, on est dans un truc, quoi. Parce que quand on est, la démocratie nous a amené dans la décentralisation. Mara Seguinasso, et maintenant, l'État s'est désengagé de son portefeuille d'appui conseil et d'accompagnement des populations. Donc, ce rôle-là nous revient, n'est-ce pas, de faire. Mais les organisations qui n'ont pas de financement, il va de soi que ne pourront pas travailler sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce que l'État doit faire dans ces conditions pour que vraiment les ressources humaines compétentes puissent travailler sur le terrain? Voilà tout le problème, monsieur.
Alors,
il y a des CDE.
Mmh. Madame, vous restez avec nous. Nous allons demander aux jeunes dames, Yuma Tamboura du parti des Forces Alternatives pour le Renouveau. Malgré votre jeune expérience, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation de la petite fille au Mali?
Je pense qu'elle est vraiment très basse. Nous, alhamdoulilah, nous avons eu la chance vraiment d'être, en fait, je ne vais pas dire très bien formée, mais je vais dire que nous sommes dans la moyenne, mais je pense que c'est très important d'éduquer les petites filles parce que ensuite, comme on le dit, c'est la génération future. Donc, que ça soit... Parce que moi, je me dis, au fait, il faut aussi laisser les femmes, si elles peuvent s'exprimer en bambara, il ne faut pas que ça soit aussi une barrière pour elles. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance, au fait, d'aller à l'école. Il y a certaines femmes qui sont des leaders, qui sont des battantes, qui peuvent apporter beaucoup de choses dans ce pays. Mais vu qu'elles ne parlent pas correctement français, elles se sentent aussi gênées. Je pense qu'il faudrait leur laisser vraiment... les laisser parler en bambara quand elles le peuvent, parce que je pense que c'est une langue nationale et pratiquement tout le monde la comprend. Mais j'aimerais lancer un appel aux parents, vraiment. L'éducation, c'est tout un pays. Quand on éduque une génération, c'est éduquer tout un pays. Voilà. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent dessus, amener nos enfants à l'école et vraiment les encourager à continuer à aller à l'école. Parce que je connais beaucoup de filles maintenant, à cause de la pauvreté de leurs parents, ils n'arrivent plus à partir à l'école. Il y en a qui font des débauches dehors parce que c'est de l'argent facile. Il y en a qui préfèrent juste... Il y en a juste, c'est juste de la paresse. Elles préfèrent juste dormir à la maison. Et donc, mais je pense que cette responsabilité-là, c'est aux parents de l'assumer. C'est bien, d'accord, mettre ton enfant à l'école, d'accord, et le suivi. Et après, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va le continuer, oui ou pas? Et je pense que l'éducation, ça commence depuis le bas âge. C'est comme quand un petit enfant frappe quelqu'un, par exemple, on lui dit « Non, laisse, c'est un enfant, il ne sait rien et tout ça. » Mais je pense que c'est à cet âge-là que tout commence. Et à cet âge-là, quand un enfant tape quelqu'un, on ne lui dit pas « Arrête, c'est pas quelque chose de bien. » Je pense qu'il va grandir avec. Et quand il va grandir, il va plus savoir que c'est quelque chose de mauvais. Voilà un peu.
Alors, Rabiatou Maïga, vous êtes de l'association Démocratie One by One.
One by One.
Je vais y arriver. Alors, Rabiatou, qu'est-ce que vous pensez de cette responsabilité dont parlait tout à l'heure Yuma Tamboura, qu'ont les parents à éduquer les enfants, enfin, à envoyer les enfants à l'école?
Oui, moi je pense que c'est très bien d'envoyer un enfant à l'école, surtout il faut le suivre comme Yuma l'a très bien dit. Quand on envoie un enfant à l'école, il ne faut pas s'asseoir que l'enfant vienne le soir et qu'il faut approcher l'enfant, il faut lui demander qu'est-ce que vous avez fait à l'école, vous avez quel exercice à faire aujourd'hui. Viens, je vais t'aider, apprends tes leçons et viens me les réciter. Je crois que quand on fait ça avec l'enfant, l'enfant mettra dans sa tête que ah, il faut que je te dise parce que je n'ai rien à faire que tu dis. Donc mes parents investissent dans mes éducations, donc il faut que je te dise bien pour être quelqu'un, pour... honorer mes parents, c'est une très bonne chose d'étudier aussi. Donc, concernant les filles aussi, il faut dire aussi que des fois, les filles ne sont pas solidaires entre elles-mêmes.
C'est-à-dire ?
Il faudrait une solidarité entre les filles. Quand tu as une amie qui est pauvre, peut-être peut-être qu'elle ne part pas à l'école. Donne-la du courage. Il faut l'encourager à aller à l'école. Il faut dire, tiens, quand tu pars à l'école, tu as ceci, tu deviens cela. Comme ça, tu auras la prise de parole devant tout le monde. Tu seras quelqu'un de bien, une présidente ou quelque chose comme ça. Il faudrait encourager son ami aussi à aller à l'école. Il faudrait même encourager son...
Donc, vous tablez sur l'encouragement. Je vous interromps pour quelques secondes de pause, juste quelques secondes, et je reviendrai vers vous.
D'accord.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Voici la troisième plateforme sur laquelle vous pouvez réagir à nos productions, c'est sur notre page Facebook. Ceci dit, je rappelle que le Grand Dialogue d'aujourd'hui parle du thème suivant, femmes et gouvernance au Mali. Cette troisième partie est consacrée au bilan de la promotion féminine dans le pays. Alors nous avons comme invité Madame Dambélé Oulematousso de la Fédération Nationale des Collectifs d'Organisation Féminine du Mali, Youma Tamboura du Parti des Forces Alternatives pour le Renouveau, FAR en Kabili, et Rabiatou Maïga de la société civile, précisément de l'association Démocratie
One One.
Alors, Rabiatou, nous étions avec vous. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette de l'éducation de la petite fille? Vous nous teniez en haleine tout à l'heure sur le suivi qu'il peut y avoir de la part des amis et des parents.
Oui, oui, il faut aussi, oui, comme je l'ai bien dit, une suivi des parents, surtout des parents aussi. Parce qu'il y a des parents qui ne suivent même pas leurs enfants. Des enfants qui sortent des fois pour aller à l'école, peut-être qu'elles ne rentrent même pas dans la classe, surtout les filles. Nous, on se connaît entre filles, et puis on sait que des fois, il y a des filles qui ne rentrent même pas dans la classe. D'autres, elles sont là à la pause, elles partent à la maison disant qu'elles ont fait ça, alors que ce n'est pas vrai. Elles prêtent les cahiers de leurs copines pour les recopier. Donc, il faut dire aussi qu'une fille... On a toujours un adage qui dit une fille éduquée, c'est toute une nation qui est éduquée. Donc c'est une très bonne chose d'éduquer une fille. Moi, je pense bien. Surtout voilà. Les filles aussi qui débordent dehors, il faudrait leur trouver un truc à faire. Peut-être qu'elles vont l'arrêter. Ça, c'est sûr.
Est-ce que vous comptez vous investir dans ce domaine, dans le suivi de vos sœurs qui ne suivent pas les voies indiquées? Est-ce que vous comptez vous investir dans ce domaine dans le futur?
Oui, oui. Si c'est pour aller de l'avant, quand même, je le ferai, Inch'Allah. Parce que des fois, même si c'est dans mes projets, oui, d'encourager les filles à aller à l'école et de continuer leurs études. Surtout quand je vois des amis femmes qui se marient. Moi, quand j'étais en la 9e année, j'avais des amis femmes qui se sont mariées. Elles ont carrément arrêté l'école. Elles ne partent même plus à l'école. Je les ai dit, pourquoi arrêter l'école? Il faudrait faire quelque chose. Faites-le d'ailleurs. Peut-être vous allez l'avoir. Quand vous l'aurez, peut-être, allez-y faire une école de santé. Ce sera mieux, quoi. Il faut être indépendante aussi financièrement pour qu'on soit respectée par les hommes aussi, des fois.
Donc vous êtes indépendante aujourd'hui?
Oui, moi je peux l'avouer, même si parfois mes parents m'aident, mais je vois, comme je ne suis pas mariée d'abord. Donc.
D'accord, alors nous allons voir dans cette troisième partie les bilans de la promotion féminine. Quels sont les progrès enregistrés en la matière à ce jour, Madame Dambélé Oulematousso de la Fédération nationale des collectifs d'organisation féminine?
Merci beaucoup. Moi, je pense que les progrès sont visibles parce que depuis la démocratie en 92, là, l'avènement de la démocratie, nous avons assisté à un foisonnement non seulement de partis politiques, mais aussi d'associations féminines. Donc, également, il y a quand même les leaders, n'est-ce pas, de la démocratie, quand même, ont pu ériger également des plateformes thématiques ou des plateformes de masse. Donc cela est pertinent parce qu'on voit de toutes les parts. Nous avons aussi, depuis la démocratie jusqu'à maintenant, nous avons évolué sur le plan institutionnel. Quoi. D'un commissariat à la promotion de la femme, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, n'est-ce pas, avec un ministère. Donc, sinon, avant, la promotion féminine était logée au niveau du développement social. Quoi. Donc je pense que ça, c'est également des avancées. Et puis, vous êtes en train également de voir pratiquement toutes les femmes qui sont en train de s'intéresser à la politique ou à la vie associative. C'est déjà vraiment des... Et les femmes, vraiment, ont l'engagement. Elles ont l'engouement, vraiment, de contribuer au développement socio-économique et culturel, n'est-ce pas, de leur pays. Cela se ressent, n'est-ce pas, malgré toutes les contraintes que nous vivons sur le terrain. Donc, je peux continuer encore à citer, n'est-ce pas, d'autres acquis, parce qu'il y avait des secteurs jusque-là où vraiment les femmes ne pouvaient pas rentrer. Vous avez vu maintenant la sphère militaire, les femmes y sont dedans, il y a même des généraux dedans. Mais si tu vas au niveau de la police, également, c'est pareil. Il n'y avait pas de secrétaires généraux, n'est-ce pas, au niveau des départements techniques. Aujourd'hui, il y en a. On a eu également un médiateur, même si elle n'est plus là-bas, une médiatrice, si vous voulez. Quoi.
Alors aujourd'hui, la promotion féminine fait beaucoup parler d'elle. À quand la parité homme-femme dans le gouvernement au Mali?
Bon, cela va dépendre non seulement de la volonté politique, mais de l'indulgence de nos honorables députés à l'Assemblée nationale, parce que c'est eux qui vont légiférer. Quand ils vont légiférer maintenant, on va assister au décret d'application et consort. Donc moi je pense que à quand vraiment, vous dites à quand...
La parité homme-femme dans le gouvernement.
La parité, mais j'ai dit ça va dépendre d'eux. Une volonté politique sans faille, parce qu'au niveau nominatif, c'est le gouvernement, le président de la République, n'est-ce pas, qui peut en décider. Sur le plan législatif, ça c'est les honorables députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est nous qui avons voté pour eux, pour que vraiment ils ramènent notre préoccupation, n'est-ce pas, au niveau central, pour qu'ils votent, n'est-ce pas, des lois qu'on veut vraiment prendre en compte, les préoccupations réelles de toutes les populations sans exclusive, dont les femmes. Donc ça dépend d'eux. Quand ils votent là, par exemple, nous avons un quota de 35% dans le pipeline. Si ils votent là, mais si c'est fini, le gouvernement sera plus à l'aise parce que le gouvernement aussi en train peut se traîner les pas en disant que est-ce que les populations sont préparées, n'est-ce pas, à cela, compte tenu vraiment de toute la contrainte socio-culturelle et du statut, n'est-ce pas, de la femme. Et il nous faut qu'à comprendre que vraiment c'est notre pays qui nous a instruits. C'est notre pays qui nous a dit qu'il faut partir à l'école. C'est notre pays vraiment qui va valoriser, n'est-ce pas, nos compétences en nous donnant vraiment des responsabilités que nous pouvons assumer. Voilà pourquoi je dis que c'est juste une volonté politique et c'est juste une volonté de l'Assemblée nationale.
Alors, nous allons demander aux jeunes dames qui sont dans ce studio, Yuma Tamboura du parti Force Alternative pour le Renouveau, Far Ankawili, vous êtes au sein d'un parti, les Far. Alors, quelles sont les perspectives que les femmes de votre parti ont aujourd'hui pour l'avenir?
Bon, je pense que nous, notre parti, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas aussi marginalisés que cela. La preuve...
6 sur 30 ?
Non, 6 sur 30, d'accord. Mais je vais vous donner un petit exemple. Les élections législatives passées, nous avons nommé nous avons mis une femme sur la liste pour qu'elle soit députée. Et cette femme-là, elle n'a pas un franc. Elle a 0 franc dans sa poche. Elle travaille au marché, elle vend des légumes et tout ça, là. Et nous l'avons financé de nos propres fonds. Ça, c'est déjà pour montrer aux gens, à la société, que nous sommes pour le quota. Et nous sommes même pour la parité, mais la parité viendra plus tard. D'abord, que la loi sur le quota soit votée. Et voilà. Donc, j'aimerais vraiment que les femmes de mon parti sortent de l'ombre. Qu'elles arrêtent de se cacher derrière un mur. Ou qu'elles se disent, oui, ce gars-là, il me donne 1000 francs. Ce gars-là, il me donne... Ça arrive très souvent dans mon parti. Dans le bureau communal, plutôt, je veux dire. Elles se disent, oui, lui, il est très riche, il a beaucoup d'argent. Bon, aujourd'hui, il va me donner 1000 francs, je vais prendre un taxi pour aller à la maison. Ou bien demain, j'ai un mariage, il faut que tu me donnes 10 000, quelque chose comme ça. Et je pense que, vu que tu n'es pas indépendante économiquement, le jour où on va dire, c'est telle personne qu'on va mettre sur la liste, pourquoi tu vas dire non? Tu ne peux pas, tu as mangé beaucoup de son argent. Tu ne pourras pas. Bon, nous avons même... Parce que nous revenons d'une formation...
Est-ce que vous militez pour que cette donne change au sein du parti?
Bien sûr, mais comme je vous l'ai dit, il faut que d'abord les mentalités changent.
Comment est-ce que ces mentalités vont changer?
Par des sensibilisations, par exemple. Et surtout, il faut surtout se baser sur nous, notre génération, et la génération qui va venir après nous. C'est là qu'il faut que ce soit ces gens-là qui soient bien éduqués, qu'ils soient bien formés, qu'ils soient bien sensibilisés et qu'on leur explique que l'argent ne fait pas tout. Ce n'est pas l'argent. C'est vrai, les femmes, on va dire, elles ont une intelligence politique un peu moins inférieure aux hommes. Elles ne sont pas basées sur les stratégies, mais plutôt sur l'opérationnel. Et je pense que c'est ça qui va... Mais tout ça, ce sont des erreurs de jeunesse, au fait. Parce que ça ne fait que 30 ans qu'on parle de leadership féminin, au moins. Je veux dire, donc, je pense que plus on va avancer, plus on va apprendre et mieux ça sera.
Alors, Rabiatou Tamboura, vous êtes...
Mega.
Je mélange les deux. Rabiatou Mega, vous êtes de la société civile. Alors, quelles sont vos ambitions pour plus de représentativité des femmes dans les instances de décision et éventuellement dans votre association?
Moi, je pense que la première des choses à voir, il faut une vraie solidarité entre les femmes. Il faut que les femmes soient solidaires entre elles-mêmes d'abord. C'est comme ça qu'on peut battre les hommes, à vrai dire. Il faut vraiment une solidarité. Et après ça, il faut que les femmes aient confiance en eux-mêmes, en elles-mêmes d'abord. Qu'elles aient confiance en elles-mêmes, qu'elles se disent que nous sommes femmes et que nous pouvons prendre la parole devant les hommes. Nous n'avons pas peur des hommes. Quand une femme, elle est... Regarde, faisons la différence même. Quand une femme elle est indépendante financièrement et qu'une femme qui n'est pas indépendante financièrement, elles ne sont même pas les mêmes d'abord. Parce que l'homme, elle a peur d'une femme qui est indépendante financièrement. Donc vous voyez, vraiment, ça c'est la vérité. Tanti même peut l'affirmer.
Alors, nous avons Tanti est au bout du téléphone. Madame Dambélé Oulema Tousseau de la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines, nous allons terminer ce débat avec vous. Alors, les femmes, vos sœurs, disent très souvent une formule: lâchons-nous les pieds, prenons-nous les mains. En Bambara, ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette solidarité féminine?
C'est ce qui est indiqué. Merci beaucoup. Ma fille vient d'en parler tout à l'heure. Elle parlait de solidarité par rapport à la parité. J'ai dit sur un plan réglementaire que les femmes s'acceptent ou ne s'acceptent pas. Le pays quand même peut identifier, n'est-ce pas, des compétences et porter des portefeuilles, n'est-ce pas?
Ouais.
Donc sur le plan réglementaire, c'est juste, n'est-ce pas, les décideurs qui peuvent influer sur ça. Mais par contre, sur un plan politique ou bien sur un plan législatif et choses et communales au niveau des conseils régionaux, il faut que vraiment les femmes soient solidaires. C'est très, très nécessaire. Mais moi, j'avoue que vraiment, il y a une question vraiment de méconnaissance, d'incompréhension. Les femmes n'arrivent pas vraiment à s'accepter facilement. C'est dû au fait que vraiment, nous sommes majoritairement analphabètes. Nous n'avons pas compris beaucoup de choses. Par exemple, au niveau de l'éducation, quand vous parliez tantôt de la responsabilité des parents, c'est des parents vraiment qui ont conscience vraiment de l'éducation. Par exemple, les parents analphabètes qui n'ont vu aucun apport, n'est-ce pas, de l'éducation. Et ils se fichent pas mal que leurs filles partent ou non à l'école. Mais ces filles-là, leaders-là, qui se sont démarquées là, mais ça doivent se mettre ensemble. Elles doivent se retrouver. Elles doivent essayer vraiment de monter vraiment des programmes de sensibilisation.
Alors nous allons rester sur ces mots d'encouragement. Nous allons rester sur ces mots d'encouragement, Madame Dambélé. Alors le temps qui nous est imparti est terminé. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Les propos ont porté sur le thème femmes et gouvernance au Mali avec le concours de la Fondation Ford. Nos invités, Madame Dambélé Oulema Tousseau de la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali. Merci beaucoup, Madame. Youma Tamboura du parti des Phares Alpha Alternative pour le renouveau, Farah Ankawili. Nous avions eu également Rabiatou Maiga de la société civile. Je n'ose pas.
Démocratie
One One. Un grand merci à vous, mesdames, pour votre participation. Merci donc à vous, chers auditeurs de la capitale et des régions. Nouhoum Diré était à la technique. Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.